Voici André de Guzmán, au Cachin Oriental. J'ai reçu totalement ce que tu
as dit. Moi, j'ai été convaincu au Cachin-Orange, en combinant les deux, de les présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de Parole aux auditeurs, émission 100% interactive de Radio Capi. Le sujet au centre de notre échange, le recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Cela fait près de 3 ans que l'opération a débuté. Actuellement, elle se déroule dans la province du Nord Kivu, considérée comme l'un des principaux actes de la réforme de l'administration publique. Le recensement biométrique vise à maîtriser les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État et du coup maîtriser la masse salariale. Selon le ministère de la fonction publique, l'épineux problème de l'administration congolaise qui perdure depuis plusieurs années est le manque de maîtrise de l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État. Souvent, il est constaté l'injection des noms fictifs dans le fichier du personnel, des faussaires, des doublons et des noms qualifiés, ce qui entraîne une mauvaise gestion des finances, du personnel, et ce phénomène a un impact négatif sur les services à rendre à la population. Comment se déroule ce recensement dans votre milieu ou comment ça s'est déroulé? À votre avis, quel est l'impact sur l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État? Notre invité est M. Florent Moulumba, il est directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique. Pierre Lamézi est une coutume sous la supervision de Nicole Ndaka réalise cette émission. Justicia est à la mise en œuvre. Manson Kalumba à la présentation.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Notre invité est en ligne, il s'agit de M. Florent Moulumba, directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique. Bonjour M. Moulumba.
Bonjour à vous et bonjour aussi à tous les auditeurs.
Et aujourd'hui nous allons échanger sur cette opération, le recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Donc au sein du ministère de la Fonction publique, dites-nous un peu, que représente pour vous cette opération?
C'est une opération fondamentale, je crois que dans l'introduction, on vous l'a dit, la fonction publique est en pleine réforme. Et bien des volets de cette réforme reposent effectivement sur les données du recensement des agents et fonctionnaires de l'État. Et c'est donc le fait de l'impact de ce recensement sur les autres volets de la réforme qui donne à ce recensement son caractère important et c'est donc une activité utile, une activité incontournable si on veut réduire les performances dans plusieurs volets du processus de la réforme de la santé publique.
Aujourd'hui, c'est le tour du Sud Kivu. Que prévoit votre programme après le Sud Kivu?
Il y a peut-être une décision additionnelle. C'est que la RDC compte 11 provinces au total. Actuellement, le recensement complet a eu lieu dans 7 provinces, et il y en a 4 qui n'ont pas encore été recensées. C'est notamment le Sud Kivu, la province orientale, le Katanga et la province Équateur. Alors, actuellement, dans le Sud Kivu, le recensement qui se fait, c'est un recensement particulier. Il n'est pas comparable à ce qui s'est passé dans les autres provinces. Il s'agit en fait de ce qu'on a appelé identification des agents et fonctionnaires dans les 4 secteurs qui font l'objet des domaines de responsabilité des provinces dans le contexte de la décentralisation que nous sommes en train de mettre en place. Donc là, ça vise les 4 secteurs simplement et ce n'est pas tous les agents et fonctionnaires qui sont concernés. Donc c'est une suite de recensement partiel dans le processus du transfert de charges aux provinces. Donc ce n'est pas le même recensement qui a lieu ailleurs, qui se fait actuellement dans le futur.
Et pourquoi c'est différent? Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Quels sont en fait les secteurs qui sont en fait qui sont pointés, les secteurs où il y aura le recensement et les secteurs où nous ne devons pas passer par le recensement pour avoir plus de précision?
Oui, l'opération de recensement, c'est une opération coûteuse. Et vous savez que jusqu'à nous avons réalisé cette activité en appui de partenaires extérieurs. Et pour le moment, nous n'avons pas réuni tous les moyens pour pouvoir réaliser ce recensement à travers toutes les 4 provinces qui sont restées. L'appui actuel, c'est un appui divin, comme je l'ai dit, dans le contexte de la décentralisation. C'est par rapport aux activités liées à la décentralisation.
Et s'il vous plaît, précisément, quels sont par exemple les bureaux ou bien les divisions, les secteurs, les domaines qui vont passer par ce recensement? Plus spécifiquement, est-ce que c'est par exemple, quand vous avez plusieurs directions, est-ce que vous pouvez donner des précisions, comme comment les fonctionnaires savent que c'est cette section-là qui va être recensée et nous pas du tout?
Oui, c'est en fait de l'EPSP, donc forcément, vous avez l'agriculture, vous avez la santé, vous avez l'environnement. Ce sont les secteurs qui ont été ciblés, qui font partie de la responsabilité exclusive des provinces dans le cadre de la décentralisation. En fait, ce qui se fait là, se fait à titre expérimental. Ça devra se généraliser dans toutes les provinces, mais on a commencé par le Sud-Kivu et on va passer aussi au Katanga bientôt. Et on va y aller comme ça pour couvrir l'ensemble des provinces.
Oui.
Et comme je l'ai dit, ce sont les secteurs de compétences exclusives des provinces dans le cadre de la décentralisation qui est en train de se mettre en place en RDC.
Oui, et avant que vous puissiez continuer, parce que nous allons aussi écouter les auditeurs, ceux qui vont donner leurs avis concernant cette opération. Par exemple, nous avons Séraphin qui est au Vira et Joseph à Bukavu. Une dernière question, dites-nous un peu comment se passe concrètement ce recensement. Quels sont, par exemple, les documents administratifs que doit apporter un fonctionnaire pour être recensé?
Là, la procédure est la même que le recensement qui a eu lieu dans toutes les autres provinces. Le fait qu'il y a un secteur ciblé ne change en rien le contenu du fichier.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on voudrait savoir si l'agent en poste a été admis sous statut ou pas. Parce que vous savez qu'il y a des cas qu'on a appelés de nouvelles unités qui sont dans la concession, mais dont la situation administrative n'a pas été régularisée.
Mm-hmm.
Vous avez des provinces qui ont cause la guerre, vous avez des personnes qui ont des intérêts, des personnes qui ont déménagé, des personnes qui ont été frappées par des mesures disciplinaires et qui ne sont plus dans l'administration, et tout cela a entraîné des remplacements numériques. Alors, il faut tenir compte, donc, de la catégorie de personnes admises au statut qui évolue depuis longtemps et de cette autre catégorie de personnes dites une fois exécutées. Alors, pour chaque agent, on doit connaître son nom, donc le nom, le prénom, le consulat. On doit connaître sa date de naissance, on doit connaître son niveau d'études, on doit connaître l'année à laquelle il est entré en service, on doit connaître s'il est payé ou pas, on doit connaître le ministère ou la division dans laquelle l'agent travaille, on doit connaître les fonctions qui existent dans ce ministère ou dans cette division. Et je crois que c'est essentiel. On doit connaître sa province d'origine, on doit connaître si l'agent est marié ou pas, ce sont des données nécessaires qui facilitent l'identification et la prise en compte des qualifications de tout ce qui entoure l'agent pour en fait clarifier aussi son processus sur le plan
Monsieur Moulumba, restez avec nous. Je rappelle que ces paroles aux auditeurs et tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission, c'est le 081 890 6315, si vous voulez participer en direct. Mais vous avez aussi une seconde possibilité, c'est de nous écrire à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Séraphin, bonjour.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal Louma.
Vous nous appelez d'Ouvira, est-ce que au Nord Kivu, parce que c'est au Sud Kivu, c'est la province du Kivu, se tient actuellement même ce recensement biométrique. Dites-nous comment ça se passe, comment ça se déroule à Ouvira.
Oui, merci pour la question, mais permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères condoléances à la radio Okapi, ainsi qu'à la famille biologique de monsieur disparu, Georges Kamudova, que son âme repose un peu, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et chaleureuse. À répondre un peu à votre question, Je tiens à vous souligner que ce recensement avait commencé aussi chez nous tous les jeudis, et jusqu'à présent, donc le jeudi de la semaine passée, et jusqu'à présent, ça continue encore, et ça se tient dans la sainte de la zone de santé d'Ouvira. Et lorsque je me suis personnellement rendu pour s'assurer de certaines réalités aussi ce recensement, c'était le vendredi vers 19h30, j'avais regardé sur ma montre. J'avais beaucoup regretté, madame, vraiment beaucoup regretté compte tenu de certaines irrégularités que j'ai eu à soulever, et qui va dans le sens de ma gouille. Qu'est-ce que j'avais constaté, madame? Lorsque les agents du service de santé s'identifiaient à la fin, donc le sujet était passé à la fin, il y a une identification de personnes fictives qui n'ont jamais travaillé dans le service de l'État, mais parce qu'elle est, ou elle est peut-être la femme ou la sœur du médecin chef de zone, elle se sent identifiée. Donc, quelle est la anarchie? Ça, c'est la première irrégularité que j'ai eu à soulever. Il y a aussi le timing. Qu'est-ce qui se passe? On profite, les agents profitent du recensement à la nuit pour qu'ils puissent introduire des agents fictifs. Mais dans ce même hôpital, dans ce même service, au niveau de l'hôpital général, de référence d'Ouvira, un agent, on m'a appelé M. Lebon, vous ne voulez pas rentrer dans le site des gens au niveau de votre mission. Il y a un agent qui a une commission d'association légale à la comptabilité. Il peut démettre ses fonctions au profit d'un agent fabriqué par le médecin directeur pour dilapider des recettes de cet hôpital. C'est que j'ai constaté toutes les autorités, toutes les autorités territoriales.
S'il vous plaît, Séraphin, nous sommes en train d'échanger, vous êtes en train de décrire une situation que vous avez vécue, mais est-ce que vous avez des preuves qu'effectivement ces gens-là que vous avez vus n'étaient pas des agents ou bien c'était de nouvelles unités? Vous êtes sûr que ces personnes qui ont été recensées ne sont pas vraiment des personnes qui travaillent dans ce milieu-là?
Oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui trouvent. Mais ce sont des personnes qui n'ont jamais, je souligne, madame, travaillé dans le service public. Elles ne sont pas elles-mêmes. Il y a beaucoup d'agents qui sont en train de se recenser alors qu'ils n'ont jamais travaillé.
Et si vous pouvez
madame.
Et dès que vous avez constaté ces irrégularités, quelle a été votre réaction?
Effectivement, je suis en train de contacter avec un agent. J'ai un agent recensé. Il me dit maintenant, voilà. Moi, on montre la commission d'acceptation me dit, qu'est-ce que vous aménagez comme effort pour se donner sur ce conseil d'acceptation mondial? Il faudrait aussi qu'il y ait quand même certains mécanismes là pour donner la lutte au problème quand même, madame.
Oui, et c'est la fin, pour que vous puissiez à d'autres auditeurs qui veulent aussi intervenir. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'avec ce recensement, cela pourrait améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État?
Bon, par rapport à cette question, peut-être que je répondrai par oui et non. Bon, si je réponds par oui, ce recensement, si ça se saisit de la rationalité, madame, même le gouvernement doit savoir quand engager un agent. On engage pas dans une entreprise pour engager seulement, madame. Il faudrait qu'il y ait une planification préalable. Si on engage quelqu'un, est-ce que son engagement aura quel impact dans notre production? C'est ça, d'ailleurs. Une planification rationnelle. Je donne un exemple qui se met en ce tout, madame. Il y a pléthore d'agents. Il y a des agents qui sont venus parce qu'ils ont des projets de recommandations de tel ministre, de tel député, on va sauter au niveau de l'eau sociaux. Mais aujourd'hui, je te parle, il y a des agents qui passent toute la journée à l'intérieur parce qu'il y a pléthore, on ne peut pas prendre ce qu'ils ont. On engage au niveau de service public. C'est de tout le tout préalable.
C'est vrai, vous pouvez faire un rapport. Séraphin, comme c'est assez difficile de pouvoir ne pas faire une liaison, une relation entre le recrutement et les recensements des agents fonctionnaires de l'État, mais en gros, nous avons suivi. Merci pour votre intervention, aussi le témoignage que vous venez de nous donner. Je rappelle que vous êtes à Ouvira, c'est dans la province du Sud Kivu. Nous restons dans cette province où se trouve Joseph. Bonjour. Joseph nous appelle de Bukavu, c'est sur 95.3, vous nous suivez sur cette fréquence-là à Bukavu. dans le Sud Kivu, le temps que la réalisation puisse essayer de recontacter Joseph. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train de parler du recensement biométrique des agents fonctionnaires de l'État. Il faudrait dire que cela, ça fait près de 3 ans que l'opération a débuté, et actuellement elle se déroule dans la province du Sud Kivu. Les deux questions, comment cela se déroule chez vous, comment ça s'est déroulé chez vous, mais aussi quel est l'impact, à votre avis, de cette opération sur l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État? Je rappelle nos contacts, le 081-890-533-15, ou nous écrire à travers pa@radiocapi.net. Et notre invité de cette émission, c'est M. Florent Moulumba. Il est directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique et il est au téléphone. En attendant qu'on puisse redonner la parole à notre invité, nous avons reçu un message de Robert Baumé, nous écrit de Bukavu, sans une autre méthodologie rigoureuse par rapport à ce recensement biométrique, il ne faudrait pas du tout espérer à une maîtrise efficace des effectifs, car combien sont ces recensements déjà effectués, mais qui n'ont jamais porté ses fruits, c'est ce que pense Richard Baumé, mais aussi Yaï de Kinshasa qui nous écrit ceci. Je me demande combien de fois on va avoir cette opération et si on est incapable, faisons recours à l'expertise étrangère comme d'habitude. Voilà ce que pense Mbayaï. Et dans quelques instants, d'ailleurs, la réalisation me fait signe que Joseph est à nouveau en ligne. Joseph, j'espère que cette fois-là, vous êtes là. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Joseph Adam, qui est directement à partir de vous.
Et nous parlons de recensement biométrique. Quel est votre avis?
Et premièrement, je remercie le gouvernement de pouvoir s'y pencher pour faire recenser les agents de l'État, car le recensement vient de commencer ici à Bukavu. Mais ce que nous déplorons, mon prédécesseur l'a dit, mais nous nous demandons, le recensement commence, mais lorsque le commencement, le recensement arrive, disons, dans 10 jours ou 15 jours, les gens ne sont plus recensés. Nous demandons pourquoi le gouvernement commence, mais pour terminer, le gouvernement n'est pas en mesure de terminer et de recenser les agents de l'État.
Donc vous craignez, Joseph, vous craignez qu'il y ait des agents fonctionnaires de l'État qui ne pourront pas se faire recenser?
Si, si. En même temps, nous nous demandons, nous regardons les agents de l'État qui ont déjà vécu tant d'années dans ce travail. Et ne sont pas vraiment recensés. Mais ceux qui ont vraiment, disons, une année ou bien 2 ans, ils sont recensés. Et ceux qui seront payés, ce ne sont pas ceux qui ont déjà vécu tant d'années. Mais bon, vous verrez quelqu'un qui a déjà fait 3 mois, 2 mois dans ce service, il est payé, mais les anciens ne sont pas payés. Et qu'est-ce que maintenant le gouvernement doit faire? Le gouvernement, l'essentiel n'est pas de recenser tous les agents au moment où ils ne seront pas payés. Et donc, le gouvernement doit regarder d'abord ceux qui ont déjà vécu tant d'années dans ces services pour qu'ils soient payés. En même temps, s'il y a des nouveaux, ou bien si on va recenser d'autres qui ont déjà, disons, 1 mois, 2 mois, qu'on regarde pour qu'on puisse payer. Mais nous regardons quelqu'un qui n'est pas dans les services, mais on les paye. Mm-hmm. Le tribalisme, si à Bukavu, vous verrez, si mon parent est là, moi je ne suis pas agent de l'État, mais il va regarder dans quel sens pour m'impliquer dans ce travail, pour que je sois payé. Or, dans ce cas-là, le pays, et même en même temps, le gouvernement ne fait pas de marché. Et donc, on va regarder, et les agents qui sont en train de réinstaller les travailleurs, on doit regarder avec zèle et regarder est-ce que celui-ci mérite pour qu'il soit vraiment recensé, en regardant s'il sera payé le jour où on va regarder la somme et qu'on doit payer à tous les agents du gouvernement.
Merci beaucoup. Merci Joseph. Nous avons compris votre préoccupation. Vous posez des questions, hein. Vous soulevez une crainte. Vous posez des questions pour savoir si réellement que les agents fonctionnaires de l'État pourront être recensés, mais aussi s'il y a un lien direct entre ce recensement biométrique avec le paiement des salaires. Nous allons poser toutes ces questions à notre invité.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Moulumba, vous avez suivi avec moi ce que pensent les auditeurs de cette opération dans le Sud Kivu. D'ailleurs, nous avons eu 2 auditeurs. Par exemple, cette préoccupation de Joseph, est-ce qu'il y a un lien direct entre ce recensement biométrique et le paiement des salaires des agents fonctionnaires de l'État?
Oui, il y a un lien. Il y a effectivement un lien. Je voudrais d'abord remercier tous ces intervenants Je ne veux pas malheureusement mettre tout leur nom. Mais je les salue et je remercie de leur participation. Concernant le lien entre le recensement et la paix, parce que l'objectif de ce recensement, on a dit, est un objectif double. Vous avez la maîtrise effective d'abord, mais vous avez en même temps aussi la maîtrise de la masse salariale. Parce que on a fait allusion tout à l'heure à l'existence des personnes fictives. C'est par le recensement que nous pouvons arriver à savoir justement qui est effectif et qui ne l'est pas. Parce que effectif, celui qui n'existe pas physiquement, effectif également, est un nom qu'on trouvera sur une liste et que la confrontation du contenu de la liste avec la nécessité d'une présence physique de la personne et de la vérification de cette identité, on constate qu'il y a des noms qui n'auront pas retrouvé un rapprochement avec une existence, avec une présence physique. Ça, c'est fictif. Et que donc, si on trouvait des personnes pareilles sur une liste de paye, donc des gens qui existent sur une liste de paye, mais qui en réalité ne sont pas à leur poste de tâche, et qui n'ont pas été vus, vérifiés par l'équipe de recenseurs, c'est clair que les pouvoirs, le ministre de la fonction publique, d'inspirer le service de la paye, c'est-à-dire le ministère du budget, de délaguer ce nom des fichiers de toute la paye. Donc ça, effectivement, elle n'est pas...
Mais s'il vous plaît, monsieur Mbon, vous avez suivi ce témoignage de Séraphin qui dit qu'il aurait constaté qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas dans ce secteur, dans un secteur donné, mais qui se font recenser. C'est vrai que vous avez dit que le recensement, ça impose la présence physique de la personne, mais comment, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour reconnaître effectivement que cette personne ne travaille pas dans ce secteur? C'est en rapport, bien sûr, avec le témoignage de Séraphin.
Oui, il a raison de s'insister. Mais il faut clarifier, il faut des responsabilités. Le recensement se fait en province. Je répète le cas de ce qui vous, c'est dans le secteur de l'enfant primaire secondaire, de l'agriculture, de la santé et du département. Mm-hmm. Alors, dans ce secteur, nous jouissons au préalable de listes déclaratives qui émanent des provinces. Le ministre de la fonction publique a eu le temps de circuler dans les provinces, d'informer les membres, disons, du gouvernement provincial dans chaque province, les responsables qui ont la gestion des ressources humaines sous leur contrôle, et également les agents et fonctionnaires de l'État eux-mêmes, de manière à ce qu'il y ait une contribution de tous pour qu'ils puissent être soumis à la fonction publique des listes déclaratives fiables. Donc, il y a là une responsabilité du premier degré, qui est la responsabilité que les personnes gèrent dans les provinces. Nous répétons aussi, comme nous avons dit tout à l'heure, que la situation qu'a connu notre administration. J'ai donné l'exemple de guerre, j'ai donné l'exemple de décennies, l'exemple de privilèges, etc. fait que différentes entités ont eu à recourir à certaines personnes pour boucher les trous dans les postes et poser les actes en tant qu'agent de l'administration politique. Et que donc, ces situations n'ont pas été rapportées ou même autorisées au préalable par l'administration centrale. Et que la situation de confusion d'aujourd'hui a nécessité que le pouvoir central rentre à la base pour faire l'état des lieux exact de la situation. Alors, on ne peut trouver un agent, tout à l'heure là, j'étais en train de vous parler des agents qui n'existent pas physiquement. Mm-hmm. Ça, c'est le premier agent fictif. Donc, le nom existe, l'argent est envoyé en province pour le salaire, mais l'agent lui-même, l'agent concerné, n'est pas identifiable. Ça, ce sont des personnes fictives qu'on retrouve sur les listes de paye. Ça, c'est possible. Mais il y a des cas, des agents qui ont été recrutés par les provinces et qui ont été présentés à la commission qui fait le travail d'enrôlement. En ce moment-là, ce n'est pas de la responsabilité de l'agent qui enrôle, c'est la responsabilité de la province, parce que c'est la province qui a soumis la liste déclarative. Il y a là une forme de responsabilité effective au niveau de la province. Il faut qu'il y ait sincérité, qu'il y ait justice, qu'il y ait objectivité. Mais nous avons toujours demandé que s'il y a des cas de personnes qui n'ont jamais travaillé, mais qui se retrouvent comme ça, infiltrées au moment où on fait le recensement, qu'on les signale. Mais ces gens sont censés présenter leurs pièces aux agents défenseurs. Et là, une des pièces très fortes, c'est le document, très fort dans l'explication de l'agent. Si ce document existe et qu'il a été dans la forme, comme dans son contenu, convenable, l'agent du recensement, lui, va recenser l'agent. Il va le mettre sur le fichier. Mais ce n'est pas l'agent du recensement qui, lui, va prendre un agent qui n'est pas connu de la province et qui construit dans le fichier du recensement.
Et quelles sont les sanctions, s'il vous plaît? Et quelles sont les sanctions
de la province, parce que ce sont les provinces qui émettent les listes déclaratives sur base desquelles se fait le recensement. Oui. Donc, si les données sont faussées à ce niveau-là, ça risque d'avoir des répercussions effectivement.
Oui. Et s'il vous plaît, Monsieur Mounoumba, et quelles sont les sanctions si on arrivait, par exemple, à pouvoir reconnaître une personne qui son nom ne figure pas sur la liste, ou bien plutôt son nom figure sur la liste, mais qu'elle ne travaille pas effectivement dans ce domaine, quelles sont les sanctions?
Le premier acte qui est posé, c'est la suspension de la paye. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que nous, la fonction publique, on suit pour que tel nom ne figure plus sur le fichier de la paye qui est émis par le ministère du budget. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, c'est ensuite, parce que vous savez, si on trouve comme ça quelqu'un déjà touché dans les provinces, on trouve des responsables, notamment en ce qui concerne la procédure de la paye, vous savez, des agents payeurs, vous savez, des comptables, vous savez, tout ce monde-là, c'est toute une chaîne, et si il est découvert, effectivement, qu'il y a un nombre donné d'agents qui ont touché le salaire de manière, indûment pendant une bonne période bien observée, eh bien, on peut faire le calcul pour savoir combien d'argent a été comme ça dilapidé, et on peut poursuivre donc les agents qui ont la charge de payer. Parce que j'aurais demandé, après la paye, de faire des rapports et de reverser au trésor public les sommes qui n'auront pas été payées au cas où, justement, les bénéficiaires n'auraient pas été identifiés. Mais si de tout le temps, cet argent n'a jamais été versé au trésor public, si de tout le temps, aucun rapport n'a fait mention de l'argent restant parce que l'argent fictif n'est pas touché, en ce moment-là, vous comprenez que c'est la responsabilité de l'agent payeur, c'est la responsabilité du comptable qui doit être poursuivie.
Et avant qu'on puisse passer la parole à Didier de Kisangani, à Madame Chantal de Béni, est-ce que vous avez déjà reçu ou bien vous avez déjà eu des cas où des personnes ont été sanctionnées à cause de ce genre de comportement?
Oui, il y a eu des poursuites, hein. Il y a eu même des missions qui ont été envoyées, des syndicalistes sont en mission sur base de ce genre de descriptions ou de déclarations. Et des missions qui ont été utilisées dans les provinces, des personnes ont été identifiées et des personnes ont été poursuivies effectivement par la justice.
Nous allons écouter Didier de Kisangani et Madame Chantal de Béni.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Okapi réunit des spécialistes compétents dans Okapi Service. Si tout le type de nos journalistes fait le lien entre eux et vous, santé, emploi, conseil au monde rural, droits du citoyen, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Okapi Service, de lundi à vendredi, dès 9h sur le Kinshasa. Okapi Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Et nous parlons recensement biométrique. Bonjour Didier.
Bonjour Chantal.
Oui Didier, vous êtes à Kisangani, nous vous écoutons.
Oui, j'aimerais commencer par présenter mes sincères condoléances à la famille Okapi pour la disparition de Georges Kamoudjova, que j'ai personnellement connu quand il était encore à Mosaïque Radio Télé à Lubumbashi. Par rapport au sujet, ici dans la province orientale, je me rappelle qu'au mois de juillet 2010, Son Excellence le ministre de la fonction publique Upira est passé ici à Kisangani par rapport à la réforme de l'administration publique dans les processus de recensement biométrique. J'ai suivi aussi l'invité, il a parlé des objectifs, maîtriser les effectifs et la masse salariale. Mais ma préoccupation est la suivante, des préoccupations. La première question que j'aimerais poser à l'invité, pourquoi le fonctionnaire de l'État, les agents de l'État sont toujours payés en retard? Malgré qu'il y a eu récemment, nous constatons qu'ils sont toujours payés en retard. La bonne dernière préoccupation, est-ce que j'aimerais savoir, y a-t-il une loi sur la fonction publique ici chez nous en RDC? Et pour terminer, j'ai compris en disant que le recensement n'a aucun impact ici dans la province orientale. Nous voyons les agents de l'État, comment ils sont logés, comment ils vivent. La province orientale, c'est la province la plus vaste. Nous avons 24 territoires. Je ne sais pas si tous les territoires de la province orientale, on a recensé les gens. J'ai vu le ministre ici à Kisangani. Après Kisangani, il est parti à Bunia. Et je ne sais pas si à Ijiro, à Bouta, à Yangambi, partout, on a recensé les gens.
L'opération n'a pas encore commencé en province orientale. Peut-être ça va débuter incessamment, comme nous l'a dit notre invité. Mais vous avez posé quand même deux questions, savoir pourquoi il y a toujours un retard dans le paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi vous voulez avoir des précisions pour savoir s'il existe une loi sur la fonction publique. C'est un peu ça votre préoccupation. Merci beaucoup Didier. Restez connectés sur 94.8 FM. Comme ça, vous aurez une réponse, des réponses à vos préoccupations. Bonjour Madame Chantal.
Bonjour Madame.
Vous appelez de
avant
de
tout, venir. Je voudrais. Oui. Mm-hmm.
Nous vous écoutons Madame.
Je voudrais présenter aussi mes condoléances pour la triste nouvelle que nous avons apprise.
Merci beaucoup.
Oui.
Nous vous écoutons, madame. Et s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de pouvoir suivre l'émission par votre téléphone portable et non attendre un retour par votre poste récepteur? Comme ça, la qualité de la communication, il n'y aura pas assez de temps mort lorsque vous nous parlez ou bien quand je vous parle. Ce sera plus facile et ce sera plus fluide. Madame Chantal de Béni, nous vous écoutons. Quel est votre avis sur ce recensement biométrique des agents fonctionnaires de l'État? Est-ce que vous pensez que ce recensement pourra améliorer les conditions de vie des agents fonctionnaires de l'État?
Merci beaucoup pour la question. À mon avis, franchement, la façon dont ce recensement s'est fait ici à Béni, ça ne prête vraiment pas confiance. Pour les raisons ci-après. Premièrement, il y avait la lenteur dans les opérations. Vous passiez deux ou trois jours avant d'être recensé sans travailler. Ensuite, on a monnayé l'opération. Il y a eu certaines magouilles qui se sont passées ici. La preuve en est que même certaines commissions d'affectation ont été signées en période de recensement biométrique. Et surtout certains agents de la mairie.
Les regards de toutes les irrégularités, donc vous pensez que déjà le processus est biaisé et que cela n'aura pas des conséquences ou un impact sur l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État?
Oui, parce que même actuellement, depuis que nous avons été recensés, il y a eu même le contrôle qui s'en est suivi. Jusque là, il n'y a pas d'impact sur les listings. Les listings tels que nous les recevons, il y a beaucoup d'erreurs. Je ne respecte pas les grâces de certaines personnes, certains agents.
Merci
il y a beaucoup.
beaucoup
d'erreurs.
Merci beaucoup, Madame Chantal, pour votre témoignage à partir de Béni. Bonjour, Tarika.
Bonjour, Madame.
Vous êtes Mbandaka, nous vous écoutons.
Oui, voilà, je voudrais vous parler de la situation que nous connaissons dans notre pays.
Mm-hmm.
Pour moi, je sais que dans la Deuxième République, il y avait les agents qui étaient danseurs et danseuses, qui avaient jeté dans la fonction publique, qui a créé maintenant le listing. Je ne sais pas, madame, si tu connais que maintenant les fonctionnaires sont payés par un listing.
Mm-hmm.
Tandis que la feuille de paye constitue de salaire de base, et allocation familiale, épouse, les filles, vie chère, impôts, l'UNESCO, et tout qu'on sort. Mais maintenant, depuis lors, donc jamais, un fonctionnaire n'a connu son salaire de base. Voilà ce que je dis. Il y a beaucoup de listings, donc on peut jeter n'importe quel nom pour qu'il y ait pléthore maintenant dans la fonction publique.
Donc vous,
voilà, ça c'est la première des choses.
Oui. Donc vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas, qu'il y ait ce processus, cette méthode plutôt utilisée à travers les listings, cela favorise en fait de pouvoir avoir plusieurs fictifs sur la liste.
Justement, madame, parce que quand on pose les gens sur le listing, c'est là de dire, c'est comme si on ramassait les gens, le journalier quelque part, et on les met dans une liste, et puis on les pose à la fin de la journée.
Mm-hmm.
En fait, c'est celui qui travaille comme fonctionnaire doit savoir qu'à la fin de cette fonction, il doit avoir une sanction. Donc, comment est-ce que quand vous n'avez pas la feuille de paie, comment est-ce qu'on peut calculer la pension d'un agent ou d'un fonctionnaire?
Mmh.
Voilà, c'est là où il y a problème.
Et autre préoccupation? Autre préoccupation, Tarita?
Oui, ma préoccupation est vraiment, c'est grand, parce que nous avons des gens qui touchent l'argent, par exemple, en dollars, et les autres qui touchent l'argent en francs congolais. Voilà, il y a toujours des ordres partout. Moi qui vous parle, on nous a déjà fait le contrôle trois fois. Et nous attendons ce biométrique, ce fameux biométrique qui va venir encore pour, je ne sais pas pourquoi faire. Parce que la fonction publique a toutes les données. Bon, je dirais encore, le président de la République avait signé un papier d'ordonnance pour que les gens de 696 donc puissent avoir leur argent dans de nouveaux unités, pardon.
Mm-hmm.
Jusqu'à présent, depuis le 22 2009 jusqu'à aujourd'hui, donc 2011, nous sommes, donc jamais les agents ont touché leur argent que le président avait signé. S'il n'a pas l'argent, on ne signe pas. S'il a signé, donc il y a des gens qui bouffent cet argent.
Merci beaucoup, Tarita, pour votre intervention. Je rappelle que vous nous appelez de Bandaka. Notre invité, comme vous le savez, c'est M. Florent Moulumba. Il va répondre à vos préoccupations, mais aussi la remarque que vous venez de soulever. Vous estimez qu'avec les listings, c'est un peu flou et c'est facile de pouvoir ajouter les noms des personnes qui ne sont pas fonctionnaires. Et ces personnes vont recevoir de l'argent sans pour autant avoir travaillé. Mais aussi, vous avez soulevé encore un autre problème. Hein. Vous souhaitez que chacun puisse avoir sa feuille de paye. Ça sera facile pour pouvoir calculer, par exemple, la pension qu'on doit recevoir après avoir travaillé pendant plusieurs années. Et aussi, il y a une autre préoccupation que vous avez soulevée concernant de l'argent que vous deviez recevoir, qui avait été renversé, que vous deviez plutôt recevoir, mais jusqu'à ce jour, vous l'avez pas encore reçu. Merci beaucoup, Tarita. Nous donnons la parole à Roger. Roger, ce sera le dernier de cette deuxième série, avant que notre invité puisse répondre aux préoccupations, aussi éclaircir certaines ombres que certains auditeurs ont soulevées. Roger, bonjour.
Bonjour madame, c'est Roger Kalala, présentement à Kananga.
Mm-hmm.
En fait, j'ai voulu seulement intervenir dans ce sens. Juste quand on parle d'abord des salaires des fonctionnaires de l'État là, ça me surpasse. Je suis une nouvelle unité dans une division quelconque. Je me demande, ça fait de cela presque une année qu'on nous a recensés, nous ne voyons pas le matricule. Et on nous dit qu'on a d'abord l'acidité d'aller au service. Nous pouvons aller au service pour manger quoi? Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir combien de temps pour peut-être avoir le matricule dans le cas de nouvelles abords, de nouvelles unités? C'est ça un peu ma préoccupation. Il faut avoir combien de temps après le recensement pour avoir le matricule? C'est ça un peu ma préoccupation, madame, si on peut peut-être me donner une bonne solution.
Mais entre-temps, vous recevez quand même un salaire?
Il n'y a pas même de prime, il n'y a pas de salaire. Vous arrivez au bureau, là, vous fréquentez, là, vous faites une heure, vous rentrez sans tout avoir quelque chose. Donc, s'il n'y a pas d'autres paramètres que vous pouvez imposer dans la vie, il n'y a absolument rien. Absolument rien.
Merci beaucoup, Roger de Kananga. Nous avons, par exemple, aussi Jean-Marie qui nous a écrit à travers PA@radiocati.net. Ces opérations n'aboutiront à rien, surtout pour les fonctionnaires et agents de l'État. Ce ne sont que les autres, ceux qui travaillent dans le privé, qui arrivent facilement à maîtriser les effectifs et non au niveau de l'État. C'est ce que nous écrit Jean-Marie Lumbala de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Florent Moulumba, vous avez encore suivi cette deuxième série d'auditeurs. Ils voudraient vraiment avoir plus de clarté dans ce processus. Nous avons eu même le témoignage de Tarita qui estime qui a constaté que ce recensement a été monnayé et aussi le témoignage de notre auditeur qui estime qu'avec le listing, c'est facile de pouvoir augmenter le nom des personnes fictives sur les listes de paye. Quelle est votre réaction?
Merci bien, madame. Je vais d'abord vous dire, je commence par Jean-Marie, qui est terminé de supérieur, tout comme M. Roger Canama, qui semble avoir, disons, un sentiment totalement pessimiste. Non, je crois qu'à cause de pessimisme, on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire une nation. C'est vrai que l'état de difficulté, mais il faut qu'ensemble, les choses soient conjuguées pour que on puisse surmonter toutes ces difficultés et arriver justement à respecter les normes. Si on revient au respect des normes, je crois que tout citoyen se retrouvera dans ce pouvoir. On a parlé effectivement de personnes recensées qui n'ont pas de numéro matricule, qui n'ont pas de salaire. Nous n'avons jamais cessé de dire que le recensement n'est pas un acte de recrutement. Et que donc, on ne peut pas dire que parce qu'on a été recensé, automatiquement, on doit avoir immédiatement une numéro matricule. Le recensement n'est pas à confondre avec un acte de recrutement. Le recensement, c'est comme une photographie qu'on réalise juste pour savoir quelle est la situation existante. Et c'est donc au niveau de l'exploitation des données de recensement qu'on va arriver à situer pour chaque cas la situation de chaque agent et savoir quels sont les actes à poser en face d'eux. Dans ce cadre, vous aurez appris qu'il y a eu signature par son sens du ministre de la fonction publique des arrêtés de régularisation des situations des agents effectivement qui se trouvent en service depuis des années et qui n'avaient pas été régularisés jusque-là. Ces actes sont en train de se faire progressivement. On ne peut pas tout faire en une journée et en une fois. Ça se fait progressivement. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on a été recensé que le lendemain, on a envie de son salaire. Avant d'avoir le salaire, il faut avoir eu le numéro matricule. Et après avoir eu le numéro matricule, il faut que l'institution ait donné au ministère du budget et qu'aussi, au niveau du ministère du budget, en ce qui concerne les prévisions justement du budget de l'État, on ait prévu pour cette période-là une enveloppe qui permet de pouvoir payer le salaire. Au cas contraire, on entre dans une phase de programmation et on est en train de libérer au fur et à mesure justement le cas des agents qui ont été recensés et qui ont droit au salaire. Et tout récemment, parce qu'il y a un intervenant qui a fait allusion au contrôle qui ont eu lieu et qu'on n'a pas vu en tout cas les gens à le payer, je l'informe qu'il y a un travail actuellement qui se fait en symbiose entre le ministère de la fonction publique et le ministère du budget pour identifier tous les noms, tous les cas qui sont ressortis après le contrôle pour lesquels l'argent a soit été détourné, soit a été régulièrement reversé au trésor public, pour que ces personnes soient remplacées par d'autres personnes qui travaillent effectivement et qui ne sont pas payées. Ce travail est en train de se faire présentement. Donc là, c'est une information que je donne. Il y a un auditeur qui a parlé de la lenteur, là vous comprenez, c'est un peu subjectif. C'est un travail humain, quand on utilise le matériel informatique, mais c'est un travail humain qui doit reconnaître aussi, disons, les aléas. Quand on arrive dans les provinces, vous pouvez trouver qu'il n'y a pas d'électricité. Et s'il n'y a pas d'électricité, on est obligé, les équipes sont obligées de recourir aux groupes électrogènes, et ça implique la consommation de carburant, et parfois, il y a des endroits où on ne trouve même pas de carburant disponible pour alimenter les groupes électrogènes emmenés par les agents de recensement. Donc, ce sont des choses qui arrivent.
Il y a aussi le retard dans le paiement. Pourquoi il y a toujours ce retard?
Bon, ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec le recensement qui est l'objet de la mission d'aujourd'hui. Parce que la question est posée. Laissez-moi vous dire que la responsabilité, en ce qui concerne le respect des dates de paiement salaire, ne compte pas. Donc, je ne suis pas indiqué pour répondre à cette question-là. Parce que c'est une gestion à un autre niveau.
C'est un ministère. Et vous voulez savoir s'il y a une loi.
On a parlé de la loi.
Oui.
Il y a une loi sur la gestion publique. Oui, effectivement, il existe la loi. Nous avons la loi 081 qui est en vigueur, encore en vigueur actuellement. Nous savons que c'est une loi qui pose problème parce que il y a des dispositions qui aujourd'hui sont concernées. Et là, je donne l'information aussi qu'il y a eu une préoccupation du ministère de la fonction publique avec l'appui de certains partenaires et des experts en la matière, a déjà produit le projet de loi sur l'organisation, le fonctionnement de l'administration publique à l'ère de crise, et également une loi portant sur le statut de l'agent et fonctionnaire donc, de l'État. Ces deux textes existent, ils ont été actualisés, ils sont déjà dans le pipeline pour que ça parvienne à l'Assemblée nationale pour qu'enfin on puisse le transmettre à la fonction du chef de l'État. Ouais.
Et cette préoccupation de notre auditeur, notre auditeur s'appelle Carissa, qui voudrait avoir plus de précisions sur la procédure, parce qu'il estime qu'avec des listings, c'est plus facile d'avoir des fictifs.
Oui, cette préoccupation est partagée, il a raison, il a totalement raison. Il a existé dans le temps le bulletin de paie, appelé les attributifs autrefois, et ce mécanisme est en train de revenir. Mais pour y arriver, il faut justement bien disposer de ces éléments de recensement. Je vous ai dit qu'on doit connaître si l'agent est marié ou pas, si il est marié à combien d'agents, si à quel niveau d'études, à quel grade. Ce sont ces éléments-là qu'on appelle les éléments qui concourent au calcul de la paye, qui peuvent être utilisés afin de pouvoir remettre justement en pratique l'usage de l'incapacité.
Oui.
Donc, c'est pour signaler que il y a un projet actuellement en cours qui met en liaison le ministère des Finances, le ministère du Budget et de la Fonction publique pour que on puisse réduire justement le temps de travail portant sur le calcul du salaire de manière à ce qu'on puisse revenir à la paye à la date mensuelle prévue entre l'employeur et le projet de l'État. Donc, c'est ce projet qu'on appelait PTS, la paie transitoire simplifiée, qui permet que chaque ministère joue dans les délais le plus acceptable le rôle qui peut jouer pour permettre à d'autres ministères de jouer le sien de manière complémentaire. Ce travail ne peut se faire en étant récurrent. Donc, c'est un travail qui peut se faire par un système que les gens utilisent dans les communications modernes. Les machines sont installées, le système de communication est établi et le fichier a été conçu. Et maintenant, donc, on est dans une phase expérimentale. Je crois que la préoccupation de l'auditeur sera satisfaite parce qu'on pourra effectivement revenir à l'utilisation du bulletin de presse.
Oui, et monsieur Florian Lumumba, nous allons écouter Jean Bosco de Lumumba, fidèle de Béni, mais aussi nous allons lire le message de Koutou à Draco de Ariwara. Il nous écrit ceci: ce recensement biométrique est-il pour tous les fonctionnaires de l'État ou ça prend une catégorie des fonctionnaires et cela prendra combien de temps? Voilà la préoccupation de Koutou à Draco. Vous allez répondre juste après les interventions de Jean Bosco et de Fidel. Jean Bosco, bonjour.
Bonjour à tous, la radio,
Okati. Jean Bosco, vous intervenez de Lubumbashi. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais dire que le recensement biométrique est une bonne initiative de la part du gouvernement congolais. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le gouvernement congolais puisse mettre des moyens. Pas de moyens pour faire le recensement seulement et commencer à dire après, non, il faut avoir les numéros, donc les numéros matricules pour avoir de l'argent. Il faut mettre des moyens pour payer les fonctionnaires de l'État.
Merci beaucoup.
Et puis, j'en ai besoin que le recensement puisse commencer à recenser ceux qui ne doivent pas normalement être recensés. J'ai des preuves que les milieux les plus reculés, les villages où il y a aussi des fonctionnaires comme dans des grandes cités n'ont pas été recensés. Alors je voudrais savoir quelles sont les dispositions qu'a prises le gouvernement congolais pour ces agents là.
Merci beaucoup Jean Bosco de Lubumbashi. Fidel, vous êtes à Béni, nous vous écoutons.
Bonjour, bonjour, M. Chantal Lumba, bonjour.
Bonjour, Fidèle.
Oui, je suis Fidèle Maëche, je suis à Béni. Je suis le numéro un des femmes de toutes les femmes à Goma, dans la commune de Goma, même à Goma. Tout d'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille de la radio Capi, la disparition de mon frère Camijova. Qu'est-ce que va me présenter?
Merci beaucoup.
Je voudrais intervenir dans ce parc. Il y a au moins 3 ans que cette opération de l'effacement a commencé. Est-ce que depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, est-ce que les agents de l'État qui ont déjà été
recensés?
Est-ce que le salaire a été majoré? Est-ce qu'il y a eu amélioration au cours de vie salaire? Est-ce que vous deviendra ou est-ce que vous deviendra ou pas? Bon, moi, je vais dire à l'auditeur, ce qui se passe, est-ce que normalement, de telle opération se passe, c'est toi déjà été recensé. Immédiatement,
nous avons compris votre préoccupation, Fidèle. Et je rappelle que vous intervenez de Béni, voulez savoir si les agents fonctionnaires de l'État qui ont été recensés, est-ce qu'il y a une amélioration de leur salaire? Est-ce que le salaire a augmenté? Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé après ce recensement de positif à ces fonctionnaires et agents de l'État? Merci beaucoup, Fidèle. Nous prenons Christian, ce sera le dernier auditeur de cette émission. Bonjour, Christian. Christian?
Oui.
Vous êtes à Camina, nous vous écoutons.
Oui, madame, je présente d'abord mes condoléances à toute la famille Obapi.
Mais
je veux juste faire remarquer une chose, que cette opération d'identification, pour moi, je trouve que ça n'aura pas tellement d'impact positif, dans le sens que cela est fait d'abord sur le plan quantitatif. Donc, quant à ce qui est de connaître le nombre de fonctionnaires de l'État, ça pose beaucoup de problèmes. Et le problème que cela pose n'est pas un problème de fictif. Comme je l'ai entendu par certains auditeurs, on introduit certaines personnes. Mais ce sont des gens qui sont introduits à la place des gens, par exemple, à l'état de décès. Donc, ce sont des personnes qui sont faites sur Katanga, on a assisté à des cas tels qu'il y a eu des décès, des abandons, des démissions et des révocations qui n'ont pas été signalés au pouvoir central.
Mm-hmm.
Alors, à ce moment-là, on est en train d'injecter 2000 démons à la poste de ces matricules-là qui sont encore viables. Et ce sont des chefs de division et de certains secteurs qui sont en train de prendre des salaires des agents comme ça. Mm-hmm. Donc, cette opération pourrait avoir un impact positif dans le sens ou il est fait sur le plan qualitatif. Si l'État doit connaître la qualité de ses agents, donc, comme on fait une ronde autour des entreprises publiques, vous allez constater que ce sont des agents, des vieilles gens qui ont travaillé il y a longtemps, maintenant ils sont ilos.
Là, on a eu des problèmes avec Christian, mais on a essayé de comprendre ce qu'il essaie de nous dire. En fait, ces noms, ces matricules, ce sont souvent des matricules qui sont donnés à des personnes qui sont décédées et après on essaie de remplacer par une nouvelle personne. Donc on lui voudrait que ce soit un recensement plutôt qualitatif, c'est ce qu'il voudrait. Il y a aussi Roland Malako de Kananga, il nous écrit ceci: dans la configuration actuelle, notre pays ne pourra jamais avoir la maîtrise des effectifs des fonds fonctionnaires, étant donné que le système de parrainage des individus n'a pas encore été nettoyé par l'opération Tolérance Zéro, pourquoi nous assistons aux affectations contradictoires entre chefs de division et ministres provinciaux qui parfois recrutent et suspendent les agents sans être en harmonie les uns avec les autres. Voilà ce que nous écrivons là. Et nous arrivons vers la fin de cette émission. Monsieur Florent Moulumba, en conclusion, c'est vrai que c'est une émission qui devrait prendre peut-être plusieurs heures, mais nous allons organiser d'autres émissions pour que ce soit un peu plus large, parce que nous sentons que vraiment les auditeurs ont des questions et des préoccupations. Dites-nous, monsieur Florent Moulumba, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
La figure, si Roland qui a donné une interprétation positive de la chose en faisant des recommandations concrètes, c'est de vous retenir en constitution. Le recensement des agents fonctionnaires de l'État est nécessaire et incontournable. Beaucoup de choses ne pourront se réaliser comme le souhaitent les auditeurs, comme le souhaitent les agents fonctionnaires, qu'après justement qu'on ait maîtrisé les données de ce recensement. Qu'il s'agisse de la retraite, qu'il s'agisse de la promotion, qu'il s'agisse de recrutement, tout cela dépend absolument de la situation que relève le recensement. Mmh. Il faudra donc, au niveau des provinces, parce que c'est là que le problème vient, je crois que vous avez suivi tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il s'agisse de personnes fictives, de listes et de signatures de commissions d'affectation contradictoires, le combat entre les chefs de division, les ministres provinciaux, etc. Tout cela demande qu'il y ait l'objectivité, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la droiture, qu'il y ait le respect, la responsabilité aux différents décisions, afin que la transparence soit faite. Tout ce travail peut se faire dans la transparence parfaite. La collaboration entre le ministère de la fonction publique et l'opposition provinciale aidera à ce qu'on puisse arriver à réellement maîtriser les effets.
En tout cas, merci beaucoup, M. Florent Moulumba, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Et nous disons merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis en FM. Vous connectez sur www.radiocapi.net. Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de parole aux auditeurs. Nous allons parler des mutuelles de santé et assurance médicale. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain.